Sponsor. Donc bonjour à tous et à toutes et on a deux nouveaux dans le studio.
Bonjour.
Comment t'appelles-tu ?
Émilie.
Et on a en face de moi, il y a...
Elliot.
Et alors on a un invité aujourd'hui, c'est...
Jérôme.
Alors pour commencer, Jérôme, que fais-tu à Esperanza déjà ?
Alors moi je m'occupe... de tout ce qui est campagne et thématique du festival. Autrement dit, je fais en sorte que Esperanza a un thème à l'année autour desquels on a des projets en dehors du festival, pendant le festival, et autour duquel aussi on peut greffer une programmation artistique, que ce soit sur, en art de rue ou que ce soit sur les grandes scènes.
Mais comment trouves-tu les thématiques ?
Alors la thématique, c'est pas moi qui la trouve tout seul. En fait, on a un collectif de collectifs. D'associations qui s'appelle le Village des Possibles. Il y a une quarantaine de collectifs à l'intérieur du Village des Possibles. Et ensemble, avec plusieurs bénévoles de ces collectifs-là, en début d'année, on choisit la thématique sur laquelle on a envie de travailler. Et puis après, quand on a choisi le fond, donc par exemple, cette année, on a envie de travailler sur la diversité, sur la migration, on choisit la forme. Et voilà, on choisit un slogan, on choisit un discours et on choisit des projets.
Mais comment trouvez-vous les thématiques ?
Alors, c'est tout un processus. On fait des exercices ensemble pour savoir en fait comment on veut réagir à l'actualité et surtout qu'est-ce qui nous touche dans l'actualité. On part souvent de ça. Et cette année, on a pas mal discuté et ce qui nous touchait le plus, c'était une résurgence, on va dire ça comme ça, un succès croissant, un succès plus important qu'avant du discours plutôt raciste, plutôt xénophobe, plutôt du rejet de l'autre. Et donc on a voulu réagir à ça.
Et vous êtes plus ou moins combien ?
Alors officiellement une quarantaine de collectifs, 10 personnes par collectif, ça fait 400 personnes, mais officieusement en fait dans les réunions on est une trentaine à chaque fois.
D'accord.
Mais comment trouvez-vous les slogans ? Et cette année, c'est quoi le slogan et la thématique ?
Alors, pour ce qui est du slogan, on fait un travail artistique. Donc, c'est-à-dire qu'en fonction du fond qu'on a trouvé, on fait un travail de brainstorming sur les différentes références culturelles qui nous habitent quand on pense à ces thématiques-là. Et donc, on réfléchit à des films, on réfléchit à des peintures, on réfléchit à des romans, on réfléchit à des légendes pour trouver des personnages ou des mots qui nous frappent. Et alors, à partir de là, se dégagent toujours des mots et des paysages, une esthétique particulière. Et alors, on arrive petit à petit alors vers le slogan. Et donc cette année, ce qui était clair, c'est qu'on est parti de la question du rejet de l'autre, des peurs, de la migration et du rejet de la migration, mais aussi de la diversité dans nos pays, hein, qu'elle soit culturelle ou sociale. Et est très vite apparue la question des ponts et la question des murs. Et donc du coup, on est arrivé à des ponts contre leurs murs.
D'accord. On se passe un petit morceau de musique ou pas ?
Et ça dure combien de temps, en fait, de chercher... de chercher tout ça.
Alors, on a un bon mois de travail pour chercher la thématique. Et avec la thématique, donc le slogan, les projets, ce qu'on a envie de faire. Et puis après, il y a encore 4 autres mois pour appliquer les projets en dehors du festival, plus la période de préparation du festival.
Combien de temps dure la préparation du festival ?
En fait, dès que le festival est terminé, on commence la préparation du suivant. Donc, et même parfois, on commence avant la préparation, avant la fin de celui-ci pour préparer l'année prochaine. Donc, par exemple, maintenant, on est déjà occupé à envisager de la programmation musicale pour l'année prochaine. Mais ça, c'est ça, à partir de juillet, quoi. Et à partir de septembre, donc quand l'édition-ci est terminée, ben, on recommence déjà pour l'année prochaine. En différentes étapes, évidemment. On a un programme par année, on sait à quel mois on fait quoi pour arriver progressivement à du plus en plus logistique, du plus en plus concret.
Est-ce que quelqu'un a encore une question ?
Moi non.
Eh ben, je vous propose un petit morceau de musique.
Ouais.
C'est parti.
as I go to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm wishing, no, I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Decisions as I go to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm wishing, no, I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know.
Direct, vous y êtes, vous écoutez Radio Esperanza.
Restez branchés.
Radio Esperanza, 106.2 à Fleuret.
Branchez-vous.
Donc, nous sommes toujours dans Iva prend le mic et pour la thématique. Donc, des ponts contre les murs, ça veut dire quoi pour l'instant, des ponts contre les murs?
D'après toi, ça veut dire quoi, Iñaki? Moi, ça m'intéresse de savoir comment est-ce que toi, tu l'entends, avant que je t'explique ce que moi, j'entends par là.
Bah pour moi, des ponts contre les murs, c'est un peu comme si on crée un truc, mais qu'à la fin, il ne servait à rien puisqu'on mettait un truc pour passer au-dessus. Enfin, c'est comme, par exemple, on veut que quelqu'un ne passe pas, mais après, il y a d'autres personnes qui construisent quelque chose pour passer au-dessus, comme par exemple créer des trous ou autre chose.
Et donc, du coup, pour toi, ça, par rapport à la campagne, par rapport au thème dont j'ai parlé tout à l'heure, comment est-ce que tu penses que ça s'articule autour de ce thème de pont et de mur?
Pour moi, là, je le vois un peu comme... comment dire? Un peu comme faire des trucs pour rien, parce que ça marchera pas.
Parce que quoi qu'il arrive, dès qu'il y a un mur, il y a toujours un pont pour aller au-dessus, c'est ça que tu veux dire?
Oui. Bah, c'est comme à chaque fois qu'il y a, quasi à chaque fois qu'il y a une rivière, soit on l'enjambe, soit on crée des ponts.
Ok, super. Bah, en fait, c'est un peu ça. C'est-à-dire que nous, on considère qu'on pourra mettre tous les murs qu'on veut autour de l'Europe, par exemple, pour empêcher les migrants d'arriver sur nos territoires. Quoi qu'il arrive, ils feront des ponts pour passer au-dessus. Mais au-delà de ça, nous aussi, on pense qu'il faut pouvoir faire des ponts avec ce type de population-là qui a besoin, en fait, qu'on en fasse, qui a besoin d'avoir un toit, qui a besoin d'être abrité dans un lieu sûr, qui a besoin d'avoir à manger, qui a besoin d'avoir des soins de santé, qui a besoin d'avoir une maison. Et souvent, c'est effectivement des gens qui partent parce qu'ils n'ont pas eu le choix de partir. Et un des thèmes qu'on aborde dans des ponts contre leurs murs, c'est justement ce thème de la migration, donc de la mobilité de plein de personnes dans le monde qui ont besoin de changer d'endroit de par la situation d'où ils sont, quoi, quelle que soit la situation. Parfois il y a la guerre, parfois il y a plus à manger, il y a la famine, parfois c'est le réchauffement climatique qui fait que il y a plus de terres à cultiver, et donc il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de raisons de partir et d'aller là où on vit mieux, comme chez nous par exemple. Mais chez nous il y a des gens qui ne veulent pas accueillir ces gens-là, et donc du coup nous on dit bah voilà, exactement comme Iñaki vient de le préciser, ça ne sert à rien, ça ne sert à rien de mettre des murs, il faut pouvoir les aider à vivre dignement, puisque c'est notre rôle en tant qu'humain.
Donc, à la place de, d'utiliser de l'argent pour construire des murs, il faut utiliser de l'argent pour aider les autres.
Je pense que c'est tout à fait ça.
Mais si, justement, ils trouvent que ici, c'est mieux d'habiter ici, mais qu'ils ne peuvent pas avoir de papier, pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas chercher dans d'autres pays au lieu de rester ici en étant sans abri.
Alors effectivement, là, Iñaki, il parle des migrants qui sont arrivés en Belgique et qui n'ont pas reçu l'autorisation de rester. Il faut savoir qu'en Belgique, il y en a beaucoup. Donc il y a pratiquement 100 000 personnes qui vivent en Belgique en ayant reçu l'ordre de quitter le territoire, comme on appelle ça. Ça fait presque 1% de la population. Et pour la plupart d'entre elles vivent dans une grande précarité, donc elles sont très pauvres parce que justement elles n'ont pas droit de travailler, elles n'ont pas droit d'avoir accès à des soins de santé, elles n'ont pas droit à une pension quand elles arrêtent de justement avoir des activités économiques qui leur permettent de vivre. Et la plupart du temps, elles ne peuvent pas avoir non plus de logement décent parce que les propriétaires demandent souvent évidemment des papiers d'identité valables ou des comptes en banque pour pouvoir faire en sorte que ces personnes puissent payer leur logement. Et donc, il y a effectivement beaucoup de personnes qui vivent dans la précarité en étant sans papier en Belgique. Alors la question d'Iñaki, c'est pourquoi est-ce que ces personnes-là restent quand même ? Parce qu'elles n'ont pas beaucoup de choix, en fait. En étant arrivées sur le territoire européen, pratiquement tous les pays en Europe font une politique qui est très dure à l'égard des demandeurs d'asile. Et donc, du coup, très peu de pays acceptent de leur donner des papiers. Et puis, la deuxième raison, c'est qu'au-delà de ça, il y a beaucoup de gens qui, du premier jour où ils ont introduit une demande d'asile jusqu'au dernier où ils ont reçu l'ordre de quitter le territoire, il peut s'écouler des dizaines d'années. Et parfois, il y a des gens qui sont en procédure pendant 10, 15 ans et sont installés en Belgique depuis très longtemps, ont fait des enfants, qui sont scolarisés, parfois ont des activités bénévoles, sont engagés socialement, ont des amis, etc. et ont tout construit toute leur vie ici. Et après 10 ans, on leur demande de quitter le territoire. Là aussi, ils vont dire, non, je ne quitterai pas le territoire, ma nouvelle vie, elle est ici, et je suis un citoyen comme les autres, je veux juste avoir des droits comme les autres, quoi.
Donc, si je comprends bien, les États sont un peu... les migrants, on n'en veut pas, on veut garder les sous pour nous.
En gros,
parce que pour éviter de construire des habitations supplémentaires et compagnie.
Il y a plusieurs raisons qui font que les gouvernements ne veulent pas de la migration. En réalité, ce n'est pas nécessairement des raisons économiques, parce que la migration ne nous coûte pas. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, en fait, accueillir des migrants qui sont sur notre territoire, ça ne nous coûte pas grand-chose. Oui, la procédure de demande d'asile, l'accueil dans les centres ouverts, etc., ça nous coûte au début. Mais en fait, après, introduire des gens qui, pour la plupart, en fait, quand ils arrivent à se déplacer jusqu'ici, sont des gens qui ont des diplômes, sont formés, ont des qualifications, parce que c'est des gens qui ont dû payer des passeurs ou payer, en fait, pour arriver jusqu'ici. Donc, c'est généralement des gens qui sont issus plutôt de la classe moyenne aisée, quoi, dans leur pays. En fait, c'est des gens qui, quand ils sont intégrés sur le marché de l'emploi, en fait, dynamisent l'économie. Et beaucoup d'études économiques très sérieuses ont montré que en fait, la migration dans les pays occidentaux apportait énormément à l'économie de richesse, quoi. Donc c'est pas nécessairement... Et ça, les gouvernements le savent très bien. Donc c'est pas vraiment cette raison-là qui pousse les gouvernements à fermer les frontières. C'est plutôt une peur du montée du populisme. C'est plutôt l'opinion publique, une opinion publique qui se généralise, qui simplifie fortement la vision de la migration, qui a été en fait... qui a apprécié, disons, le discours de certains leaders d'opinion qui est un discours plutôt basé sur l'identité, qui consiste à dire qu'en fait, quand il y a des migrants qui arrivent sur le pays, qui ont une autre religion, une autre langue et une autre culture, en fait, nous, on va perdre notre identité à nous. Donc, c'est-à-dire nous, en tant que blancs, qui parlons français en Belgique ou flamands en Flandre, qui avons tel ou tel code social, telle ou telle valeur. En fait, beaucoup de gens ont peur de perdre cette identité-là en voyant arriver des migrants migrants qui sont différents. C'est ce qu'on appelle en fait tout simplement de la xénophobie. Mais il y a beaucoup de gens qui, à la télévision ou sur Internet, les réseaux sociaux, dans des livres, en fait, dynamisent ce discours-là et ça rentre dans la tête des gens et les gens pensent du coup que la migration va être très mauvaise pour la suite de leur vie en Belgique parce qu'ils n'auront plus de repères, on va mal respecter les femmes ou tout le monde va devenir musulman. Il y a beaucoup de clichés qui circulent à ce niveau-là et je pense que c'est surtout ces discours-là qui font qu'il y a des leaders populistes qui montent dans des gouvernements ou alors les gouvernements qui sont en place ont peur d'accueillir des migrants parce qu'ils ont peur de leur propre société civile à qui ils sont incapables d'expliquer ou de contrecarrer le discours anti-xénophobe.
Mais pourquoi est-ce qu'il y a des personnes qui dynamisent qu'on va perdre un peu nous-mêmes, quoi?
Il y a plusieurs raisons à ça. Je pense que t'en as qui le pensent vraiment. Je pense qu'il y a des gens qui pensent vraiment que s'il y a des populations, que les sociétés multiculturelles ne peuvent pas exister. Donc ça veut dire que des sociétés où des gens blancs, noirs, arabes, catholiques, juifs, musulmans, athées, ou qui parlent plusieurs langues, que ça ne peut pas coexister. Il y a des gens qui pensent vraiment que l'humanité doit évoluer avec des boîtes uniformes, homogènes, monolithiques et qui se juxtaposent et qui n'ont pas trop de communication entre elles. Il y a des gens qui pensent ça parce qu'ils disent que ça donne la multiculturalité mais trop de conflits. Ça c'est une partie de la population, une partie des gens qui pensent ça. L'autre partie, je ne sais pas s'ils sont sincères ou pas, mais il y a clairement ce qu'on appelle des leaders populistes d'extrême droite qui eux en fait récupèrent ce discours là on ne sait pas s'ils le pensent ou pas, mais en tout cas ils savent que ça a beaucoup de succès parce que c'est très simple à comprendre et ça a beaucoup de succès électoral pour monter au pouvoir. Et il y a beaucoup de gens en France, en Belgique aussi, qui utilisent d'ailleurs cette ficelle là durant les élections pour tout simplement être élus et après prendre le pouvoir. C'est un truc très très classique dans l'histoire de notre société occidentale. Dès que la société va un peu moins bien, notamment au niveau économique, il est beaucoup plus facile de pointer du doigt un ennemi identifiable, genre par exemple le migrant, que en fait des raisons socio-économiques et politiques très complexes pour pouvoir monter au pouvoir. Et donc voilà, beaucoup de régimes sont montés au pouvoir comme ça, donc en simplifiant foncièrement la situation. Et je pense que beaucoup de politiciens font ça en ce moment pour pouvoir accéder tout simplement au pouvoir de nos pays.
Donc en gros, si je comprends bien, l'État rejette un peu la faute comme à l'époque avec les boucs émissaires.
C'est exactement ça. Moi, je suis persuadé qu'une bonne partie, en tout cas des politiciens qui récupèrent le discours d'extrême droite xénophobe, sont pas nécessairement des racistes dans le fond, mais ont compris l'opportunité d'avoir un bouc émissaire pour pouvoir se servir eux-mêmes.
C'est quoi exactement la définition de bouc émissaire ?
La définition de bouc émissaire, en tout cas utilisée dans ce contexte-ci, c'est de dire que y a un problème. Le problème est complexe. Par exemple, il y a un problème au niveau de l'économie en Belgique. On dit qu'il y a des problèmes économiques, que la croissance ne va pas bien, qu'il n'y a pas assez d'emplois pour tout le monde, que les salaires ne sont pas élevés. Voilà, on dit qu'il y a ça, on dit que les gens ne sont pas assez riches en soi, ils n'ont pas assez de pouvoir d'achat. Donc ça, c'est un problème. Effectivement, l'économie est ralentie. Et au lieu de trouver les vraies solutions à ce problème, donc qui peuvent être très diverses, hein, les solutions à ce problème-là, au lieu de trouver les causes de ce problème, très important, au lieu de trouver les causes de ce problème, qui sont de nouveau très diverses, en fait, on va trouver des fausses causes. On va trouver des fausses causes à ce problème. On va dire que, en fait, s'il y a des problèmes économiques en Belgique, c'est à cause des migrants. C'est un peu comme si j'essaie de trouver une allégorie. Je cherche une définition pour expliquer dans le contexte ici. Ok, par exemple. Tu es en classe à l'école.
Oui.
D'accord. En fait, on se rend compte que dans la classe, il n'y a pas assez de cahiers pour tout le monde. D'accord. Et pas assez de bic non plus. D'accord. Alors, quelqu'un d'intelligent va dire, bon, s'il n'y a pas assez de bic et s'il n'y a pas assez de cahiers, c'est parce que la directrice de l'école n'a pas commandé assez de bic et pas assez de cahiers. D'accord. Alors du coup, il faudra aller chez la directrice, commander, lui dire qu'il n'y a pas assez de bic et pas assez de cahiers. Mais la directrice va dire qu'elle n'a pas encore reçu assez de budget pour acheter ses bics et ses cahiers. Donc du coup, elle va appeler le ministère qui va débloquer une situation pour acheter des bics et des cahiers. Okay, on va dire que cette situation est plus ou moins complexe. Okay, mais comme c'est une situation complexe, la directrice va dire, en fait, s'il n'y a pas assez de bics et assez de cahiers, c'est à cause de Ayrton, qui est dans la classe, qui a volé tous les bics et tous les cahiers. Et du coup, elle va utiliser Ayrton, qui est dans la classe, comme bouc émissaire, en disant que c'est lui le responsable du problème, alors que c'est pas du tout le responsable du problème. Ayrton, il est dans la classe comme tout le monde, il a pas mangé les cahiers ni les bics, et lui, en fait, du coup, ça devient le bouc émissaire de la directrice. Tu comprends ?
Mais alors, puisque l'État sait que c'est pas les migrants qui posent problème,
ouais.
Puisqu'ils savent que l'économie se dégrade d'année en année, pourquoi est-ce qu'un jour ils se disent pas « c'est bon, on a fait assez de conneries, on a utilisé assez de boucs émissaires, maintenant on va régler le problème une fois pour toutes ».
Ah ben, je me pose la même question, Inaki.
D'accord.
Est-ce que toi, tu as une possibilité de réponse ? En fait, moi, je crois qu'il y a une bonne partie de la population qui croit ça, qui sait qu'il est temps de passer à autre chose, mais que ce n'est pas celles qui ont les rênes du pouvoir pour le moment, quoi. Et avec une population qui descend dans la rue, qui va interpeller les politiques, qui va mettre des initiatives de solidarité en place avec les migrants et les réfugiés, je pense que ça peut faire évoluer les mentalités. Mais te dire pourquoi est-ce que maintenant les politiques qui sont au pouvoir maintenant se disent pas bon ben arrêtons de faire n'importe quoi et prenons le problème à bras le corps notamment au niveau de l'économie, ben j'ai pas beaucoup de réponses, si ce n'est que je pense que certains problèmes de l'économie, donc le fait que les salaires soient bas, le fait qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas beaucoup d'argent et qu'il y a une pauvreté qui augmente, je pense que ça arrange quand même certaines personnes. Je pense qu'on est dans un système économique, si tu veux, où au plus il y a de pauvres, au plus les riches sont très riches. C'est comme si tu coupais un gâteau. Le gâteau, au lieu de partager le gâteau en plusieurs morceaux équitables, au plus on donne des petites parts, plein de petites parts à des gens, au plus certaines personnes pourront se servir de grosses parts. Et donc c'est comme ça que fonctionne l'économie pour le moment. Moi, je pense que le gâteau, il faut pouvoir le partager équitablement, que tout le monde ait la même part. Et ben, il y a certains politiciens qui pensent que il faut donner des parts de plus en plus petites aux gens, en sachant très bien qu'ils se réservent les grosses parts. Et ça, c'est le problème de l'économie en soi. Et si ils ne résolvent pas le problème de l'économie, mais préfèrent pointer du doigt des boucs émissaires, c'est-à-dire les migrants, c'est à mon avis, entre autres, et pour simplifier beaucoup, parce que eux, ça leur permet de se servir beaucoup plus dans le gâteau.
Mais c'est dégueulasse.
Ah oui, c'est dégueulasse, oui. C'est pour ça que beaucoup de gens s'engagent, c'est pour ça que beaucoup de gens se mobilisent, c'est pour ça que dans le Village des Possibles, il y a énormément de bénévoles qui font plein de projets justement pour dénoncer ça, pour mettre des alternatives en place. Il y a beaucoup de gens qui sont révoltés par rapport à ça. Et Esperanza est un peu un symbole de cette révolte.
D'accord.
On va passer à un morceau de musique. Je vais en chercher un. Hop, hop, hop. Et...
on entend les clics.
Bon. Je vous propose un Renaud.
Allez.
Ouais.
C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Tatatin, moi la mer, elle m'a pris, je me souviens, un mordi. J'ai troqué mes Santiago et mon cuir un peu zone contre une paire de Dockside et un vieux ciré jaune. J'ai déserté les crasses qui me disaient « sois prudent, la mer c'est dégueulasse, les poissons baissent dedans. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. » C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer, elle m'a pris au dépourvu. Tant pis, j'ai eu si mal au cœur sur la mer en furie. J'ai vomi mon 4 heures et mon minuit aussi. Je me suis cogné partout, j'ai dormi dans des draps mouillés. Ça m'a coûté des sous, c'est de la plaisance. C'est le pied, dès que le vent soufflera, je repartira. Et que les vents tourneront, nous nous en allerons. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mère qui prend l'homme, mais elle prend pas la femme qui préfère la campagne. La mienne m'attend au bord, au bout de la jetée, l'horizon est bien mort dans ses yeux délavés. Assise sur une bite d'amarrage, elle pleure, son homme qui la quitte. La mer c'est son malheur, dès que le vent soufflera, je repartira. Et que les vents tourneront, nous nous en allerons. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer elle m'a pris, comme on prend un taxi. Je ferai le tour du monde, pour voir à chaque étape, si tous les gars du monde veulent bien me lâcher la grappe. J'irai aux quatre vents, foutre un peu le boxon. Jamais les océans n'oublieront mon prénom. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer elle m'a pris et mon bateau aussi. Il est fier mon navire, il est beau mon bateau. C'est un fameux trois mâts, fin comme un oiseau. Mais c'est Tabarly, Pajot, Kersauzon et Riguidel naviguent pas sur des cajots, ni sur des poubelles. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer, elle m'a pris, je me souviens, un vendredi. Ne pleure plus ma mère, ton fils est matelot. Ne pleure plus mon père, je vis au fil de l'eau. Regardez votre enfant, il est parti marin. Je sais, c'est pas marrant, mais c'était mon destin. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons de requin.
Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons.
Dès que le vent soufflera, nous repartira. Dès que les vents tourneront, je me n'en allerons de lapin.
Donc nous revoilà, malheureusement nous allons devoir déjà dire au revoir à Jérôme.
En tout cas c'était un plaisir de discuter de ça avec vous. N'oubliez pas, nous on pense qu'une société peut vivre dans toute sa diversité, même si les gens sont très différents, je pense qu'on peut vivre ensemble. C'est parfois dur, mais il faut pouvoir essayer, c'est le devenir de l'humanité.
Comme une coloc.
Comme quoi ?
Une coloc.
Comme une coloc.
Est-ce que quelqu'un a encore une question à poser à Jérôme ?
Non.
Eh bien, merci Jérôme.
Merci beaucoup, merci à vous.
Donc nous allons repasser un dernier morceau. Donc là, ce qu'on vient d'entendre, c'était Renaud, Dès que le vent soufflera, sur l'album Talent du siècle. Et là maintenant, nous allons passer à Thomas Chichon. Encore merci Jérôme et peut-être à l'année prochaine ?
Sûrement à l'année prochaine.
Merci.
Cold to the fire, but you never let the my true colors. I was called to the fire, but you never let the burning stop. The fear in your eyes from falling deeper. Wear your disguise to cover up. Roll of the dice, put us together. We're together now. 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 We're together now.
Radio Esperanza.
Radio Esperanza.
Esperanza, c'est propre.
On peut dire ce qu'on veut et surtout de la spontanéité.
Radio Esperanza.
Vous nous écoutez sur radio.esperanza.be mais aussi en FM sur les ondes des radios partenaires.
Radio Panique.
105.4 à Bruxelles.
Radio Campus Bruxelles, Nantes, 92.1.
Radio Larzac.
Sur
87.8.
Et 98.6.
48 FM.
48 FM sur 105.0.
Vous nous écoutez sur Rhône.
88.1.
Radio Campus Amiens sur 87.7.
UFM 106.9 à Mons.
Radio.
Radio Esperanza.
Esperanza.
Et pendant ce temps-là,
alors que le président de Publifine ne sait plus aller aux toilettes sans avoir une pluie de questions, sachez que les toilettes d'Esperanza sont gratuites.
Et pendant ce temps-là,
alors que les dirigeants du SAMU social se remplissent les poches d'argent, sachez que l'eau est gratuite à Esperanza.
Donc, merci beaucoup à... Merci beaucoup à Émilie et à...
Elliot.
Alors, pour finir ce petit Ziva prend le micro, qui a été peut-être un peu plus court que d'habitude, ne vous en faites pas. Demain et après-demain, c'est chargé. On aura jusqu'à 17h. Et désolé pour le retard qu'on a pris. Et pour finir, un petit Claude Capéo. Et c'est riche. Merci et à demain.